sur France Inter.
Il était imposant physiquement, baraqué, les yeux rieurs et en colère, toujours contre toutes les inégalités. Amoureux des mots, il était imposant moralement aussi. Résistant, il a parcouru le monde pour accompagner et comprendre les révolutions. Des poèmes, il en écrira dès l'adolescence. Après une première vie dans le journalisme, il commencera à écrire du théâtre, sans abandonner pour autant le poème. D'ailleurs, il faisait poème de tout. De la beauté d'un arbre, des réparties de ceux qu'il appelait les loulous, ces jeunes de la banlieue dans laquelle il a décidé de concrétiser une de ses utopies, la maison de l'arbre à Montreuil. Armand Gatti s'est éteint ce matin, homme de théâtre, cinéaste, résistant, rêveur, chantre de l'antisystème, anarchiste, généreux, inventeur de formes. Armand Gatti, l'imprévisible, n'est plus. Sa voix reste. Nous vous proposons de l'écouter, de la réécouter, dans une émission de France Inter, Studio Théâtre, le 30 mai 2009. Il affirmait être croyant. Il disait que nous sommes tous l'agonie d'une étoile. Il ajoutait « Seul le Verbe peut nous aider à retrouver l'éclat défunt de cette étoile ». Armand Gatti est mort, mais la parole errante continue. Armand Gatti, ce soir, dans l'heure bleue, portrait d'un insoumis.
L'officier SS ne vous a rien dit ?
Quel officier ?
Vous savez très bien ce que les SS ont dit, vous m'aurez pas comme ça.
Qu'est-ce que tu crois ?
Demain, il doit rester qu'un seul vivant.
Tu crois si tu me tues, ils feront avec toi un arrière d'honneur ? Où as-tu pris ça ?
L'officier.
Schella ? Où vas-tu donc faire Schella ? Ah, jetzt verstehe ich. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as le temps de réfléchir.
Armand Gatti, merci infiniment d'être avec nous pour ce numéro spécial de Studio Théâtre. Vous venez de reconnaître, j'imagine, un extrait de votre film tourné en 1960 qui s'intitule L'Enclos et qui est le témoignage de votre déportation. Alors avant d'en revenir à cette expérience, hélas, fondatrice pour la construction de votre univers, je voudrais revenir à votre enfance. En fait, vous ne vous appelez pas Armand, mais Dante, et vous êtes né en 1924 dans un milieu d'immigrés extrêmement pauvre. Mais vos parents vous ont appris, très jeune, l'expérience de la liberté et de l'indépendance.
Ben, c'est-à-dire que ma grande richesse, c'est d'être né dans ce milieu, hein, et de continuer dans l'esprit que, en quelque sorte, il dégageait, mais dont il illuminait, parce qu'un pauvre, c'est quelque chose qui cherche à exister d'une certaine façon, et que, disons, dans le camp des pauvres, je n'ai jamais eu à retourner ma veste, et j'ai toujours eu, toujours avec moi, l'idée du combat. Si j'avais été dans un autre milieu, peut-être que je ne serais, ou même certainement, pas ce que je suis aujourd'hui.
Mais pourquoi, Armand Gatti, en 1941, vous décidez d'arriver dans un maquis pour rentrer dans la résistance, donc très jeune, engagé dans la résistance et dans la toute naissance de la résistance, avec comme bagage, non pas des mitraillettes, mais Nietzsche et Hölderlin.
Ben, c'est-à-dire qu'il y avait toute une histoire préalable qui, disons que, étant à Monaco, étant né à Monaco, dans la principauté, je vivais au rythme de ce qu'on peut appeler la principauté, hein, mais évidemment toujours du côté des pauvres, c'est-à-dire qu'on habitait sur les pentes de la Turbie, il fallait inventer des merveilles pour pouvoir ne fût-ce que m'amener à l'école, parce que le père devait être était balayeur, et donc dès 3 heures du matin, ma mère avait 5 patrons, C'est-à-dire qu'elle partait. Alors, pour elle aller était femme à l'école, de ménage, alors, votre etc., votre mère. Il a fallu. Alors, heureusement qu'il y avait des moines franciscains qui étaient pas loin et que, disons, ça a été un peu mon ambiance. D'où encore aujourd'hui mes références à Bernardone et dont l'Église, qui pour mieux le persécuter, en a fait Saint-François d'Assise. D'ailleurs, j'ai toujours vécu, disons, dans ce dialogue que Saint-François avait essayé de faire avec le loup de Goubiot.
Et avec les oiseaux aussi.
Et avec les oiseaux, mais c'est surtout le loup de Goubiot, parce qu'il ne comprenait pas toujours son langage, et c'est clair, sa femme, alors que l'Église en a fait un moine de Bernardone, elle a appelé François parce qu'il parlait de français. C'est tout. Et donc, sa femme Claire, qui était une fille merveilleuse, qui l'avait rejoint dans son aventure, et c'est elle qui a traduit en quelque sorte ce que disait le loup de Goubiot pour qu'on puisse changer les choses. Et c'était quoi ? Parler aux arbres.
Alors voilà. Ça, les arbres sont très importants dans votre univers de théâtre, Armand Gatti. Mais après ce début dans la résistance, dans le maquis, en 1943, vous êtes arrêté par les Allemands, puis vous êtes envoyé en camp de concentration.
Non, je suis arrêté par les GMR, pas par les Allemands.
Les GMR ?
Groupe mobile de réserve, c'était la gendarmerie pétainiste.
Ah, les Français vous arrêtent.
Donc, parce que la France était très pétainiste, hein, très pétainiste. Et d'ailleurs, comme exemple, dans le maquis, c'était un des premiers en Corrèze. Bon, on était 4, 3 Lyonnais et un Monégasque. Hein, 4, c'est tout. À la Libération, là, je vais y retourner maintenant, on a créé le refuge des résistances Armand Gatti. Et disons que. Combien de personnes déjà sont autour d'une façon très fraternelle et très, très chaleureuse, très enthousiaste, etc. 50 000.
Vous voyez que. De 4, vous êtes passé à 50 000. C'est pas mal. Comme esprit de fraternité, de solidarité.
Oui, mais les chiffres ne prévoient pas toujours les choses. Enfin,
oui, mais n'empêche qu'il vous a fallu beaucoup de courage et d'obstination pour continuer à vivre quand donc. Les Français vous arrêtent et vous êtes amené par les Français dans un camp allemand. Et là, vous vivez une expérience qui, hélas, va constituer votre univers.
Oui.
Et votre possibilité, malgré l'enfermement dans le camp, de pouvoir, par l'imaginaire, vous évader.
C'est-à-dire que, disons, toutes les expériences auxquelles l'homme est confronté, toutes les expériences, c'est-à-dire, c'est la possibilité et donc la seule façon de pouvoir lutter avec, c'est avec les mots. Donc, si on communique en ce moment, c'est parce que nous avons des mots en commun et que nous les échangeons. Et de là, la compréhension de l'un et de l'autre se multiplie grâce aux mots. S'il n'y avait pas les mots, il n'y aurait rien. Il y aurait un langage à réinterpréter à partir des arbres, parce qu'avec eux, on ne parle pas avec des mots. On parle avec toute une série de sentiments, d'idées, etc., que crée le cerveau, et à partir duquel on entre en communication avec les oiseaux, les frondaisons, et tout ce qui fait l'univers.
Vous deviez être fusillé, et c'est en raison de votre jeune âge que les Allemands vous ont épargné ?
Ça vient uniquement d'une décision de Hitler qui, à ce moment-là, avait dit qu'il valait mieux employer les déportés et les faire travailler plutôt que de les envoyer à l'extermination. Parce que les faire travailler, ça voulait dire participer à l'effort de guerre. Et donc, il a senti que la situation était en train de changer, alors qu'il était vainqueur sur tous les fronts à ce moment-là. Et on a décidé qu'on ne fusillerait plus, au contraire, qu'on augmenterait les déportations. Et on a créé, autour de chaque camp, un camp subalterne qui était celui de l'industrie. Enfin, c'est ainsi que Mercedes était autour d'Auschwitz. C'était dans ce qu'on appelait le Buna. Bon, entre-temps, il y avait évidemment l'extermination était toujours toujours maintenue. Hein, mais disons uniquement, disons, porté vers les Juifs, vers les Roms, enfin certaines catégories, etc. Et donc de ce côté-là, j'ai eu la chance, cette chance de tomber juste à ce moment-là, c'est-à-dire qu'après ma condamnation est venu l'ordre de changer les choses venant de Hitler et qui était de participer à l'effort de guerre. Et évidemment, bon, ça c'est ma reconstitution. Après, sur le coup, j'étais là en prison. Bonjour, on me sort de prison. J'ai cru que c'était le moment où on allait, parce que la veille encore, on avait fusillé. Et puis, j'ai cru que le moment était arrivé. Et bon, avec cette chanson qui m'habite encore aujourd'hui, ce n'est que nos revoirs, mes frères. Oui, nous nous reverrons, ce n'est que nos revoirs. Et donc ça, c'est, disons, ça fait partie de mes lieux privilégiés, d'habiter cette chanson, d'être là à l'intérieur, et avec tout ce qui l'occasionnait, et avec tous les hommes, les frères qui les ont la partagée.
Et vous avez réussi donc à survivre à cette guerre. Vous n'avez pas pour autant perdu votre esprit d'insoumission. Vous avez utilisé la langue dans différents registres. Vous êtes d'abord devenu grand reporter dans un journal où vous avez couvert les plus grands événements. Puis ensuite est née la passion pour le théâtre. Je vous propose, Armand Gatti, d'écouter un extrait de votre pièce datant de 1964, « La vie imaginaire » de l'éboueur Auguste G.
Décidément, ce quartier de la Vierge. Je ne l'aurais donc jamais quitté. Depuis le temps, il a pourtant bien changé. C'est sa misère qui doit nous poursuivre. Il y avait trop de coups de couteau les soirs de paye. Trop d'ivrognes par désespoir aussi. Trop de crèves la faim. De hurlements de femmes derrière les baraques au moment où les épidémies s'abattaient. Tout ce monde, une fois qu'on l'a connu, il est difficile de le déloger. Il reste.
C'est une archive INA datant de 1964 et qui met en scène, vous parliez tout à l'heure de votre propre père, l'éboueur qui met en scène justement la vie de votre père. Et on peut dire, je crois, Armand Gatti, que la totalité de votre parcours théâtral est traversée par un désir de rendre l'admiration que vous portez aux plus humbles, aux plus opprimés, aux plus marginalisés, parce que c'est d'eux que vous tirez la force, que nous tirons la force.
Mais automatiquement, c'était les miens, ce que... Et donc, avec eux, disons, ça a été continuellement un combat à mener. Mais le mener avec quoi, le combat ?
La langue du théâtre que vous avez inventée.
Les mots. Il y a toujours ma première victoire. Hein, ma première, c'était un matin, disons, pourtant lumineux, le printemps s'annonçait, etc. Et on a été encerclé par les GMR. Groupe mobile de réserve, on a été épris et les quatre qui fondateurs du maquis ont dû sortir du trou qu'ils avaient creusé dans la terre, les bras en l'air, et on a été amenés. Et on traverse la forêt, qui était la forêt de la Berbérolle, et on se trouve sur la route où il y avait tous les camions qui avaient amené les GMR. Et là-dessus, il y avait un commandant qui faisait les 100 pas en attendant que l'opération se termine, et puis qui me voit, évidemment, j'étais très, très jeune, peut-être trop pour lui, il vient vers moi, et puis en disant « Qu'est-ce que tu allais foutre dans le maquis, toi ?» Et qu'est-ce que je pourrais répondre ? Alors, les arbres m'ont aidé, et il y a un rouge-gorge, qui, là, c'est juste l'arbre qui était devant nous, et sur les branches, et là, il s'est mis à chanter. Alors, pour moi, c'était la réponse. Alors, j'ai répondu, moi. Et lui, qu'est-ce qu'il y fout ? Alors, il s'est fâché. Elle a commencé à cogner. Elle a cogné, vraiment. Et à tel point que le GMR qui m'avait amené, qui m'a pointé la mitraillette dans le dos, hein, qui a dit « Laissez-le, mon commandant, hein, j'ai un fils comme lui, et il va à l'école maintenant. » Pas avant qu'il m'ait répondu « Qu'est-ce qu'il allait foutre dans le maquis ?»
Bah, vous êtes toujours dans le maquis, Armand Gatti, parce que donc, après votre expérience de la guerre...
Oui, non, mais là, il y avait la réponse. Là, il y avait la réponse. Et c'est ça, ma victoire, par les mots. Hein. C'est que... il commence à cogner et vraiment, ils avaient...
Vous êtes en train de vous tuer.
Oui, il allait avec l'autre qui disait « Arrêtez mon commandant ». Et finalement, en entendant, lorsque l'oiseau s'est mis à chanter, le commandant s'était fâché et il cognait. Alors, c'est là que, lorsque l'autre lui a dit « Laissez-le », et il a répondu, pas avant qu'il me dise, hein, qu'est-ce qu'il allait foutre dans le maquis. Ma deuxième, hein, je l'ai eu quelques heures après, lorsque, bon, on a été amené, et donc on a été amené à Ussel. À Ussel, il y avait la prison, il y avait l'interrogatoire, il y avait tout ce qu'il fallait, et il fallait à tout prix que je dise que le fermier d'à côté, Pierre Elie, était la personne qui fournissait notre maquis, ce qui était vrai d'ailleurs, mais il fallait que je le dise.
On vous a demandé de dénoncer.
Alors, on a annoncé, alors vas-y, et puis etc. Et puis ça a commencé à taper, à cogner, et de nouveau, ça faisait... Et à ce moment-là, il fallait que je dénonce. Et alors, je ne pouvais pas dénoncer. Et alors, Pierre Elie, je cherchais comment ne pas le dénoncer. J'étais donc chez Pierre Elie, et Elie avait une charmante fille, et auquel, disons, une fois allant chercher le repas, je lui avais lancé un poème d'amour. Et alors, c'est ce poème qui m'est revenu, puisqu'on parlait de il était question de Pierre Elie, ce poème m'est revenu, et brusquement, je me suis mis, en plein interrogatoire, à lancer le poème d'amour. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres, miroir de mon étoile, asiles éclairés, tes yeux plus solennels de se voir adorer, temple où le silence est le secret d'entendre. Quelle île nous conçut des strophes de la mer, onde où l'onde s'enroule à la houle d'une onde, les vagues de nos soirs expirent sur le monde et regonflent en nous leurs eaux couleur de chair. Hop, il est fou, il me prend pour un pédé. Et il m'a laissé aux autres qui... Bon,
c'est bien d'être poète.
C'était ma deuxième victoire. Il y en a eu d'autres après.
Il y en a eu d'autres,
mais pour les deux premières, c'est dans le maquis de la Berbérolle.
Nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud, au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture. Dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures, et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes, au bout d'un verre français. Brillant comme une larme.
L'écoute du monde, Armand Gatti, vous l'avez pratiqué de différentes façons et vous l'avez pratiqué aussi en tant que journaliste engagé. De cette expérience d'événements fondamentaux de l'histoire du XXe siècle, vous avez pu tirer des pièces de théâtre et notamment une pièce très importante qui vient d'être rééditée ces jours-ci qui s'intitule « Le poisson noir ». Je vous propose d'en écouter un extrait interprété par Alain Cuny.
Signe, l'empereur parle.
A-t-on jamais condamné un incendiaire pour lui-même ou pour l'incendie qu'il a propagé? Le feu, il l'a partagé avec ses proches, bien avant son acte. Lui n'en a été que l'accoucheur. Quel droit peut avoir un accoucheur sur un enfant qui vient au monde? Nul n'est plus éloigné d'un crime que celui qui l'a commis. En faisant naître la flamme, l'incendiaire s'est débarrassé du feu, mais il ne s'est pas débarrassé des autres. Ce sont eux qui l'obligent à expier la présence du feu qu'il continue à entretenir.
Quand on relit Le Poisson Noir, qui vient de reparaître aux éditions Verdier en collection de poche, Armand Gatti, on est très frappé de la contemporanéité de ses écrits de théâtre, qui sont issus de votre expérience en Chine. Cette pièce a été jouée en 1959. Auparavant, il y avait déjà eu une consécration théâtrale pour vous avec Le Crapaud Buffe, qui a été interprété et mis en scène par Jean Villard. Mais Le Poisson Noir résulte, je crois, directement de votre expérience en Chine et de votre face-à-face avec Mao Tse-Tung.
Oui, mais...
C'est pas à tout le monde qui a rencontré Mao Tse-Tung et qui a pu avoir un dialogue au plus haut sommet sur le théâtre et sur l'essence même du théâtre.
Oui, non, mais c'est justement le monde du théâtre qui a fait cette rencontre. C'est-à-dire que j'étais en train de refaire avec Wang Chen-Chi et Mei Lanfang, qui était... Wang Chen-Chi, c'était un ami, traducteur de Mao Tse-Tung, et qui me servait d'interprète. Et puis, disons, de l'autre côté, Mei Lanfang, qui était le maître du théâtre à Pékin. Et donc, c'est avec eux que j'ai refait ce voyage, et avec la belle, l'immense Li Yihua, qui était un peintre et en même temps une femme superbe. Et donc, j'ai refait tout le trajet que Mao Tse-Tung avait fait avec sa longue marche. Et là, j'ai appris tout un tas de choses qui, évidemment, contredisaient entièrement toutes les versions que les médias en avaient données à droite, à gauche, peu importe la provenance, enfin, mais c'était faux à chaque fois.
Oui, mais quand vous avez rencontré Mao Tse-Tung, vous lui avez demandé des conseils pour votre art du théâtre. Que vous a-t-il répondu ?
Non, c'est-à-dire que le dernier soir que j'ai passé avec eux, ça a été un repas qui s'est passé sur le pont de la rivière Daishu, qui a été décisive justement pour l'histoire de la longue marche. À un moment donné, Mao Tse me dit les Chinois voudraient vous faire un cadeau. Et alors ils ont décidé de vous apporter l'idéogramme. Je comprenais pas quoi. Qu'est-ce qu'il m'apporte l'idéogramme, qu'est-ce qu'il veut que je traduise, etc. Et là-dessus, je dis que je ne savais pas le chinois et qu'il m'était difficile d'accepter le cadeau. Enfin, et alors il a un peu marqué le coup, mais très très légèrement. Et il m'a dit, ce n'est pas une traduction que je vous demande, c'est une prise de conscience. que von Chensi me traduit, etc. Hein, parce que hein, l'idéogramme, vous l'avez déjà. Il existe chez vous. Et, hein, c'est quoi? Ah, j'étais perdu. Enfin. C'est quoi? La théorie des quantas. Et là-dessus, il me cite Fridtjof Capra, le livre qu'il avait écrit entre les rapports de la science et la pensée orientale, enfin, etc. Et là-dessus, la théorie des quantas. Alors, c'est devenu pour moi ce cadeau que m'a porté la Chine, le peuple chinois. Donc, c'était la prise de conscience de ce que pouvait être dans ce que je faisais, l'idéogramme. Et j'avais l'indication, c'est la théorie des quantas. Et récemment, pour aujourd'hui, je suis venu à Paris, et avant de venir ici, je suis passé chez l'éditeur pour qu'on mette sur pied, et enfin, lui l'attendait depuis longtemps, c'est-à-dire mon livre. Bon, le livre que je vais faire sur le théâtre. Et ça s'appelle « Révolution culturelle, nous voilà ».
Presencia, comandante,
Armand Gatti, vous rappeliez votre amour pour les mathématiques. Vous avez été très proche de Cavaillès, qui était un immense résistant qui a été tué en 1944. Vous avez écrit beaucoup de pièces de théâtre ayant trait justement au principe d'incertitude. Une pièce aussi sur Kepler, une pièce qui s'intitulait « Les oscillations de Pythagore ». Et puis parallèlement à cette veine de théâtre, vous n'avez jamais abandonné votre esprit d'insoumission qui caractérise votre empreinte dans le théâtre contemporain. Et notamment, on parlait tout à l'heure de Mao Tse-Tung, on parlait de votre rôle dans la résistance quand vous étiez très jeune. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde qui vous révolte, vous y allez. Et à partir de cet événement, vous en tirez une pièce de théâtre. Je vous propose tout de suite d'écouter le labyrinthe de retour d'Irlande à la suite de la mort de Bobby Sands.
Bobby Sands a fini son calvaire. Sans se réveiller, il a sombré cette nuit du coma dans la mort. Ses parents, qui n'avaient pas quitté son chevet depuis dimanche matin, disent eux-mêmes qu'ils ne le reconnaissaient plus. Il y a deux mois, c'était un bel athlète de 75 kilos. Il avait, avant sa mort, l'air d'un centenaire. Sa peau s'était assombrie, les dents et les os lui sortaient du visage. Sur son matelas spécial, rempli d'eau, son corps ne pèse même plus 35 kilos. Sa mère, qui avait dit qu'elle ferait tout pour sauver son fils jusqu'à son dernier souffle, a voulu finalement respecter sa volonté. Elle lui avait promis samedi de ne rien entreprendre pour l'arracher au coma lorsqu'il y sombrerait. Elle a même rejeté hier avec fierté une nouvelle intervention du Parlement européen. Et dans la pièce à côté de la sienne, à la prison de Longkesh, la famille de Francis Hughes, le deuxième des quatre grévistes de la faim, vit à quelques jours d'écart les épisodes du même drame. L'Irlande du Nord, une fois de plus, est au bord de la violence. Les manifestations qui, il y a deux heures, se rassemblaient dans le recueillement font place à des scènes d'émeutes, malgré les appels au calme des chefs catholiques. Des barricades ont été dressées en quelques minutes à Falls Road, le plus grand des ghettos catholiques de Belfast, et des voitures brûlent un peu partout.
Quel rapport entretenez-vous avec les événements du monde, Armand Gatti? Et est-ce que c'est votre principale source d'inspiration pour votre théâtre?
Non, c'est la résultante de mes discussions, de mes pensées, de mes etc. avec mes morts.
Vous parlez avec les morts.
Tout mon théâtre est fait avec eux. Et j'y ajoute quelquefois des personnages de mes lectures, comme ça. Mais, disons, ce sont toujours mes morts.
Mais vos morts, ce sont des amérantes ou ce sont des martyrs de révolution?
Eh bien, c'est ceux que j'ai connus dans la pauvreté toute mon enfance, et puis ceux que j'ai connus dans le camp et ceux que j'ai connus en prison. L'église de Tréorintoc, qu'est-ce que... pourquoi? Comme actualité, c'est un peu
celtique. C'est éternel,
c'est éternel. C'est un peu... pourquoi? Parce que les églises, à ce moment-là, n'avaient que des portes qui s'ouvraient de l'intérieur. Or, ces portes qui s'ouvrent de l'intérieur, finalement, ça a été pour moi le théâtre. Et disons, une des premières pièces, elle est faite avec uniquement des portes qui s'ouvrent de l'intérieur. Et d'où venaient ces portes qui s'ouvraient de l'intérieur? De la prison, et de Tulle, et de Nice, et de à toutes les fois que j'étais là, dans ma cellule, en train d'entendre les portes qui s'ouvraient, et à droite, qui s'ouvraient à gauche, des gardiens qui passaient, qui allaient... Et tout ce monde, ces portes qui n'ouvraient que de l'intérieur, créaient un monde multiple. J'étais là, à l'écouter, essayer de le traduire, pour me faire un comportement d'après eux, et donc ces portes de prison ont été, en quelque sorte, pour moi, le début du théâtre. Et alors, j'ai tenu à le conserver.
Oui, mais vous avez été loin encore, Armand Gatti. Vous avez été encore beaucoup plus loin, parce que vous avez fait rentrer cette prison intérieure et bien réelle que vous avez vécue à la fin de votre adolescence. Vous l'avez fait rentrer sur la scène de votre théâtre. Mais vous avez encore été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, puisque vous avez travaillé dans des prisons avec des détenus, et que là, c'est une sorte de métamorphose théâtrale dans votre itinéraire, et qu'il y aura une période pour vous qui va être très importante, où vous passerez votre énergie, votre temps et votre capacité créatrice à essayer de parler avec les détenus pour en faire des êtres à part entière, et eux aussi des acteurs de leur propre imaginaire. Je vous propose d'écouter un témoignage de détenus qui ont participé à cette pièce qui s'intitule « Les combats du jour et de la nuit » à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en 1989. C'est une pièce écrite et montée par vous avec 12 détenus de la maison de Fleury-Mérogis entre décembre 88 et avril 89.
Nous savons maintenant que les mots nous appartiennent.
La fraternité, l'amitié avec tous les détenus, pour moi c'est le stage là, quand je viens dans ce stage, pour moi c'est une vie, je vis.
Voilà, alors là c'est un extrait donc du fond Armand Gatti, qui est un fond où on peut écouter tout l'itinéraire de votre parcours théâtral, mais on voit bien, et j'ai eu la chance de voir ces représentations de théâtre avec des détenus à plusieurs reprises, on voit bien à quel point vous avez transformé de l'intérieur ces êtres qui sont complètement oubliés de la société et qui n'ont pas d'existence. Et alors vous faites avec eux un travail expérimental et vous n'y allez pas par quatre chemins, Armand Gatti, parce que vous leur posez, je crois, comme question au départ pour savoir s'ils sont capables de vous suivre dans ce que vous leur proposez. Voulez-vous être Dieu avec moi ?
Oui, mais... Il y avait
c'est la pas facile hein, de répondre oui.
La possibilité, hein, il fallait avoir la possibilité de poser la question. Alors, à l'époque où, disons, un ministre de la Culture s'appelait Malraux, à une époque où il s'appelait Jacques Lang, etc., c'était possible. Aujourd'hui, c'est fini.
Oui, parce que vous avez été poursuivi par le général de Gaulle.
Une entité qu'on assassine aujourd'hui tous les jours.
Vous
le
pensez ?
Il n'y a plus de culture. Plus de culture, c'est fini. Il y a qu'à voir vers quoi, et surtout maintenant en période de crise, vers quoi vont les subventions, comment elles se font et qu'est-ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire que un théâtre de combat aujourd'hui n'est plus possible. Et d'ailleurs les gens de théâtre sont les premiers. Moi, j'ai commencé par avoir trois pièces montées où on enlevait le texte. Il n'y avait plus que le titre de la pièce, la signature, et puis le reste, on mettait quelques chansons, puis on se tortillait beaucoup, enfin, alors c'était l'expression du corps, etc. Et bon, une pièce, les sept possibilités du train d'Auschwitz, on commence à l'annoncer en enlevant Auschwitz. Les sept possibilités du train. Déjà, ça ne voulait plus rien dire.
Vous voulez dire, Armand Gatti, que nous vivons une époque de censure ?
C'est pas de la censure, non, c'est...
C'est déguisé.
C'est l'époque, nous allons vers le robot, hein, nous avons choisi d'être, de réaliser le rêve de l'homme en devenant robot, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et alors à ce moment-là, que vient faire la culture, plus rien.
Alors vous dites, il y a de moins en moins de culture, mais on peut ajouter, il y a de plus en plus de prisons. On construit des prisons.
Écoutez, moi, les prisons, je trouvais que là, lorsque je travaillais à l'intérieur des prisons, c'était pour qu'ils prennent conscience, quel que soit, qu'ils prennent conscience.
Quel que soit leur parcours, le parcours des détenus.
Qu'ils n'étaient pas des détenus de droit commun, ils étaient des détenus politiques. Parce que ce qui les avait amenés à faire ce qu'ils avaient fait pour obtenir la condamnation, avait une raison, avait une explication. Dans la société, là où, disons, le méfait avait été accompli, et qu'ils n'avaient pas du tout cette finalité obligatoire de la sanction. Non, là aussi, la prise de conscience.
Mais ça, vous l'avez fait avec des détenus, vous l'avez fait avec des marginaux dans des quartiers déshérités, que vous appelez les loulous.
Oui.
Et à chaque fois, pour vous, Armand Gatti, le théâtre peut être une possibilité de catharsis, de découverte de soi-même, prise de conscience de son identité.
Plus, puisque nous allons proposer le théâtre quantique.
Oui, alors c'est quoi le théâtre quantique ?
C'est ce que me demandait Mao Zedong, c'est-à-dire d'introduire l'idéogramme dans l'expression, dans les mots que j'emploie. Alors, il est évident, de quoi est fait un idéogramme ? D'un trait qui signifie quelque chose, d'un autre, ça va de 3 à 5, qui ont, et disons que l'ensemble signifie encore autre chose.
Hein? Ça veut dire que vous arrivez vers un théâtre ésotérique en ce moment, Armand Gatti ?
Pour moi, il est très clair, mais il risque d'être effectivement ésotérique pour beaucoup. Enfin,
alors, on sait que vous avez été très lié avec Henri Michaud, on sait que vous avez fréquenté les grandes mythologies que vous connaissez par cœur, notamment des grandes mythologies aztèques. On sait que vous êtes porté aussi par les légendes celtiques dont vous avez parlé tout à l'heure, que vous savez presque comme Saint François d'Assise, presque aussi bien que Saint François d'Assise, parler aux oiseaux et notamment aux rouges-gorges quand vous êtes en menace de mort. Et je voudrais que on puisse entendre un extrait d'une de vos lectures qui s'intitule « 22 octobre 1941, ce que chantent les arbres de Montreuil, 22 octobre 2000 », écrit en hommage aux 27 otages fusillés à Chateaubriand le 22 octobre 1941, extrait issu du fonds Armand Gatti.
Les fusils fascistes venaient de faire abdiquer à trois vagues d'hommes ardents leur croyance en la lumière. Manif ailée, inscriviez-vous dans le ciel la lutte des classes ? Corbeaux, corneilles, pigeons, vous avez attendu que les 27 corps déchiquetés soient remis sur les camions qui les avaient amenés vivants du camp de Choisel, où ils étaient otages. Vous les avez suivis, transformant par vos cris la route de Chateaubriand en élégie, et vous avez reformé le même arc de triomphe au-dessus du château antique du camp, où, sur l'escalier d'honneur de l'ancienne salle des gardes, leurs corps ont été entassés pour la nuit. Les étoiles sont venues ensuite apporter leur témoignage. Et comme s'il fallait conserver aux chiffres leur valeur rituelle, les 27 otages exécutés ont été répartis en groupes de trois dans 9 cimetières différents des environs. C'était l'odeur du sang qui avait réuni tant d'oiseaux différents, devait dire par la suite les toujours sinistres historiens. En cet anniversaire du 22 octobre 1941, il n'y aura pas que leur voix. Il y aura celle d'arbres qu'on va planter. Parc des Beaumont, avec les oiseaux de Montreuil en conciliabule tout autour.
Traverser des langages, traverser des histoires, traverser des mythologies. Armand Gatti, le théâtre est pour vous un opérateur, une alchimie, une possibilité de découverte de soi-même et des autres, un lien de solidarité aussi vital pour l'espace public. Et on a l'impression que plus vous avancez dans la vie, plus finalement vous êtes comme une pitié, comme un prophète, que le théâtre est peut-être pour vous le pressentiment de ce qui devrait exister.
Non, c'est beaucoup plus dans le mot, la parole, pas, uniquement le théâtre, c'est-à-dire dans l'événement du verbe. Par exemple, au moment de la résistance, toutes les fois qu'il y avait un résistant qui avait été fusillé, ou un groupe qui avait été descendu, ou des arrestations, je faisais un poème. Et puis, le poème, je le tirais à plusieurs exemplaires, et d'ailleurs, les arbres de Montreuil que
nous venons d'entendre.
Donc, ce poème, j'allais le mettre sur les arbres. C'était ça, mon combat. Je n'allais pas prendre une mitraillette ou un machin qui est un... Apprendre qu'il y a des gens qui luttent, apprendre que nous avons des morts qui revendiquent quelque chose dans l'énorme mystère qu'est la vie et dans lequel nous devons mener un combat.
In 1803, we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, and the marks of our fetters we carried. In the rusty iron chains, we sighed for our wains, as our good wives we left in sorrow. As the mainsails unfurled, our curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. cursed them to hell as our bows fought the swell, and we danced like a moth in the firelight. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43, and we wept bitter like children. Oh Jesus, we shrieked as our God we beseeched, all we got was the prayer of the pilgrim. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. Van Diemen's Land is a hell for a man to live out his life in slavery, where the climate is raw and the gun makes the law, neither wind nor rain cares for bravery. 20 years have gone by and I've ended me bond, and me comrades ghosts are behind me. A rebel I came and I'll die the same, on the cold winds of night you will find me. I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home.
La parole errante est avant tout le nom d'un centre international de création qui a vu le jour à Montreuil en 1986 et dont la direction est revenue à Armand Gatti et à son groupe de travail, Hélène Châtelain, son fils Stéphane Gatti et Jean-Jacques Aucard qui y veillent encore aujourd'hui. Mais c'est aussi le titre d'un ouvrage d'Armand Gatti, un texte de 1760 pages à caractère autobiographique qu'il écrit et réécrit jusqu'en 1999, date à laquelle il va être obligé de s'en séparer pour qu'il soit publié, et ce sera fait par les éditions Verdier. Nous allons écouter un extrait de La parole errante, dit par Armand Gatti.
« Main, non plus flux ou coulée d'une émotion, mais risque nécessaire à la poésie. Main, qui ont planté sur les terres dévastées d'Irlande des mots qui autrefois étaient des arbres. Mains d'artificiers, selon Henri Michaud. Mais après l'éblouissement, que reste-t-il? Un dessin brûlé sur la rétine. Mains, au bout de la pelle triangulaire, s'enfonçant dans la partie mortelle du monde concave. Mains, bâtisseuses de logopoles, et remontant les horloges à l'infini sur le trajet des pages, main évidence d'un centre absent, mais toujours dite en texte multicolore. Main qui ont porté en terre la dépouille froide des amis, non pour les ensevelir, mais pour qu'ils germent, beaux, terribles, incommensurables. Main des îles grecques, retenu dans les 5 heures du soir et grimpant, fleurs insolites, vers les étoiles, la nuit venue. Main, inextricablement en guerre et tirant toujours en l'air, parce que la mort de l'autre leur a toujours été incompréhensible. Main d'André Breton, venu des monarchies hiéroglyphiques, se lisant dans l'enfoncement, le relief, la ciselure,
l'écume rejaillissant d'un océan toujours en mouvement. Main de la continuelle offrande, en mal de tout, les mouvements de la mer, la course du chien abandonné, la solitude du loup et le rossignol la nuit, chaque fois rapatrié à elle. La main dans la main de Cipriano Mera, le non-général qui avait gagné la bataille de Guadalajara contre les croisés de la Vierge de Saragosse. Main ayant porté menottes, cabriolets, poussettes, bracelets, manchettes, à chaque époque son élégance. La main dans la main de Michel, la fille du rabbin, et le visage souriant de la guérilla guatémaltèque suicidée juste avant son arrestation. Main tendue en direction des mains du médecin Che Guevara. Un jour d'exécution massive à Ciudad de Guatemala, elles le sont presque toutes. Par la suite, ces deux mains tranchées et enterrées dans le plus grand secret pour éviter la contagion de la subversion. La main repliée, poing levé, pour saluer toute une nuit dans Turin. L'endroit où Nietzsche est devenu fou. La main repliée, poing levé, pour dire non et en même temps oui au siècle.
Ce n'est que nos revoirs, mes frères. Oui, nous nous reverrons. Ce n'est que nos revoirs.
Vous avez écouté dans l'heure bleue ce soir, durant l'hommage à Armand Gatti, Back Home in Derry de Bobby Sands, chanté par Christy Moore, Hasta Siempre d'Angel Parra, La parole errante, poème d'Armand Gatti, et des armes par Noir Désir. Merci à Benjamin Riquet qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Soufiane Kousna. Merci à Thierry Dupin pour ses conseils musicaux et merci à Maxime Ingrand qui était à la technique ce soir. Merci à toutes et à tous et comme chaque soir, eh bien vous allez retrouver Mishka qui va continuer son odyssée en faveur et en hommage aux filles dans son very, very good trip.